temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, cette semaine nous passons cette heure avec Kamel Daoud qui, après l'énorme succès de Morceaux contre enquête en 2014, prix Goncourt du premier roman, prix François Mauriac, prix des 5 continents de la francophonie, traduit dans plus de 30 langues et qui lui a valu une reconnaissance considérable dans le monde entier, revient au roman avec Zabor ou les psaumes qui paraît chez Actes Sud. Et je dis revient au roman car on a pu lire il y a quelques mois Mes Indépendances, recueil de 182 textes paru dans la presse de 2010 à 2016, du New York Times au Point, en passant, c'était d'ailleurs la majorité des textes, par le quotidien d'Oran. Autant de prises de position sur le refoulé national algérien, sur la condition de la femme, sur la religion, sur le pouvoir des hommes et celui de la littérature, et qui nous rappelait que Kamel Daoud excelle aussi dans cet exercice littéraire qu'est la chronique, produisant des textes qui furent parmi les plus lus d'Algérie. Un recueil qui fut publié comme tous ses livres, et comme Zabor d'ailleurs, conjointement, et c'est important, et non négociable pour Kamel Daoud, chez Actes Sud, mais aussi chez Barzac, son éditeur algérien. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Alors c'est vrai, c'est non négociable, le double éditeur, hein, publié en Algérie, puis publié chez Actes Sud en France.
C'est non négociable, c'est urgent et c'est très important. Parce que sinon, le livre ne sera pas accessible pour le public algérien, pour des raisons économiques et de coût, du surcoût plutôt, et des raisons d'accessibilité des droits d'auteur. Et je pense que c'est important que l'écrivain du Sud soit lu au Sud tout autant qu'au Nord.
Qu'est-ce qui expliquerait que ça ne soit pas accessible si c'était uniquement l'édition française? Puisque Barzac publie en français aussi.
Oui, mais en même temps, si je suis un écrivain qui publie uniquement en France avec des éditeurs français, donc mes droits d'auteur seront pour l'éditeur français. Donc pour que l'éditeur algérien puisse y accéder, il faut qu'il les achète ou il achète la cession, ce qui fait que c'est un coût qui est comme un surcoût qui est important. Sinon, l'autre formule, il faut que l'éditeur français exporte ses livres à l'Algérie et là aussi, il y a un surcoût quand même très important. Ce qui fait que le livre qui peut être vendu en Algérie à 1000 dinars, l'équivalent de 10 euros à peu près, va être vendu à 30 euros si on y inclut un petit peu le transport, etc. 30 euros, ça veut dire que vous perdez les deux tiers de votre électorat.
Et c'est le texte en français, hein, on est d'accord, chez Barzac.
Oui, oui, c'est le texte en français. Ouais. Le français reste la langue, la seconde langue en Algérie, qu'on ne veuille pas. C'est la maîtresse linguistique de l'Algérie.
La maîtresse linguistique. Et qu'est-ce qui fait que vous vouliez absolument être lu en Algérie d'abord par les Algériens, avant que le livre ne vive sa vie dans le monde entier?
Pas uniquement par les Algériens, mais dans le Maghreb en règle générale. Le Maghreb et les francophones en Tunisie comme en Algérie. En même temps, c'est ce qui fait sens. J'ai besoin d'amitié, mais j'ai besoin d'adversité aussi. J'ai besoin que le texte fasse sens. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que la lecture n'est pas la même. Vous écrivez un roman où vous tournez autour d'un livre sacré. Le livre sacré, c'est de la mythologie pour un lecteur de Paris ou de France ou d'Allemagne. De l'autre côté, le livre sacré, c'est une question de vie ou de mort. Donc, vous êtes autour dans la perversion, dans cette lecture exigeante de la sacralité. Vous n'y engagez pas uniquement une esthétique, mais un droit d'exercer une autorité de lecteur sur un livre qui est fermé à l'humain. Donc, l'enjeu n'est pas le même.
Et l'adversité dont vous parliez, elle se manifeste comment? C'est une adversité littéraire, c'est une adversité politique. Qu'est-ce que c'est, cette adversité?
Plusieurs strates. Ça peut être politique parce que je suis considéré comme un libéral dans la tradition de gauche de postcoloniale. Elle peut être conservatrice parce que une catégorie de la population ou des élites politiques vivent sur la rente du colonial. Donc moi, je suis écrivain francophone, lu et apprécié en France. Donc je suis, disons, la parfaite figure du traître, entre guillemets, traître idéologique. Elle peut être religieuse aussi. Parce que des gens qui détiennent un livre n'aiment pas les autres livres. C'est automatique. Une adversité aussi de corporation. Mais ça, c'est universel, je veux dire, entre un écrivain qui écrit, qui est publié, qui est très lu, par rapport à un écrivain qui écrit, qui est lu, mais qui n'est pas très lu. Donc il y a beaucoup de choses. L'enjeu des idées dans le Sud est très important. Il est vital maintenant. Donc autant y participer, autant y défendre une liberté ou quelque chose.
Alors donc c'est vrai, hein, on le comprend, c'est non négociable cette façon d'éditer le livre d'abord en Algérie. Alors je rappelle Kamel Daoud que vous êtes né en 1970 à Mostaganem, donc en Algérie. Vous vivez aujourd'hui à Oran et vous publiez en cette rentrée littéraire Zabor ou les psaumes, votre deuxième roman qui nous plonge dans un petit village isolé d'Algérie, qui nous fait rencontrer Ismaël dit Zabor, le personnage principal, on va voir, puisqu'il y en a un autre personnage principal peut-être, et que c'est pas un être humain. Zabor, comme le livre des psaumes, d'ailleurs c'est le sous-titre, hein, je le disais, de votre livre, Zabor présenté par le Coran comme l'un des trois livres hein, révélés par Allah avant le Coran. Alors ici, Zabor n'est pas un livre, mais c'est un garçon, une trentaine d'années, orphelin de mère, repoussé par son père, qui dépèce les moutons. Il vit Zabor en marge du village, sans femme, mais dans la compagnie des livres, et cette compagnie compense, voire couronne, ce statut de paria par une forme de don, en fait. Zabor, il a un don, il a le pouvoir, croit-il, et les gens le croient aussi, de repousser la mort des autres par l'écriture sur les autres, leur faisant gagner du temps de vie lorsqu'ils consignent leur existence dans ces cahiers qu'il achète par dizaines. C'est un don qui s'accompagne d'une sorte de mission, pour lui, hein, nommer le monde, rédiger une véritable encyclopédie qui enfermerait le monde entier en son sein, une sorte de pendant du verbe matriciel divin qui, lui, pense Zabor, a été rendu ineffectif par le dogmatisme des religieux. Ce roman propose une double réflexion. Il s'interroge sur ce qui est socialement acceptable dans une société en crise, maintenue à bout de bras par des croyances séculaires, mais il s'adresse également à l'intelligence du lecteur en lui proposant d'approcher d'un peu plus près les rouages de l'écriture, les rouages de la lecture, leur force infinie, qui peut autant faire d'elle des instruments de soumission que des instruments d'une libération de l'esprit et du corps. Et c'est aussi, Zabor, et nous en parlerons, une réécriture contemporaine du sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Et c'est par là que je voudrais commencer, d'ailleurs, Kamel Daoud. Qu'est-ce qui a présidé, par rapport à Meursault contre-enquête, votre premier roman, qui était une réécriture, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais de L'étranger de Camus, dont le narrateur était en effet le frère de l'arabe tué par Meursault, qu'est-ce qui a présidé à cette évocation, et plus encore cette exploration, encore une fois contemporaine, mais d'un texte beaucoup plus ancien, Zabor, et je l'ai dit, hein, qui est un livre sacré mentionné par le Coran. Encore un livre avec des livres, en fait, Kamel Daoud.
Je suis fasciné par les livres. Je suis un réécrivant quelque part. J'ai construit ma liberté avec les livres. Les livres sont l'événement le plus important de ma vie après le premier orgasme. Donc, c'est quelque chose qui participe de ma construction.
Après, pas avant.
Avant, pendant et après. Donc, c'est quelque chose qui a accompagné. Le corpus a été le premier corps de ma sexualité. C'est quelque chose de fondamental dans ma vie. La femme a été nue d'abord dans les livres. La sexualité a été découverte par les passages érotiques avant de toucher une femme. Donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Le corpus est un vrai corps. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre, la question du livre est importante. Maintenant, elle est de retour. Les gens du livre, la religion du livre, les religions du livre qui, au nom d'un livre, veulent tuer tous les autres. Pendant que vous posiez la question, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai tenté de réécrire L'étranger du point de vue de l'arabe, mais là je tente de réécrire un livre sacré du point de vue de l'humain, c'est-à-dire du point de vue de sa victime, du point de vue de son centre. C'est un humain qui tente d'écrire un livre sacré, et pourquoi pas.
Mais Zabor existe.
Zabor existe.
Un petit mot quand même sur Zabor, hein. Je dis, il est mentionné dans le Coran.
Zabor, c'est les psaumes, c'est la traduction, c'est le livre de David. Donc, il est dit dans le Coran que Dieu a donné un don à David, et celui d'écrire un livre qui peut chanter, et c'est toute la nature qui lui répond quand il chante ce livre. Il y a un dicton en Algérie, dans le Maghreb, qui maintenant n'est pas très connu, et qui serait la traduction d'un petit peu de quelqu'un qui presse dans le désert. Et ça s'appelle, je le dis en algérien, qui va lire ton Zabor, ô Daoud. C'est-à-dire, Daoud, c'est David. Donc, qui va te croire ton livre, ô David? C'est un petit peu cette traduction-là.
Donc, Daoud réécrit le livre de David, de Daoud.
Why not? Pourquoi pas? Donc, cette obsession que j'ai pour les livres, elle vient de l'enfance. J'ai pas eu beaucoup de livres. Donc, les livres que je n'ai pas lus, je les écris, tout simplement. Et les livres que j'ai écrits et que j'ai besoin de réfléchir, je les réécris par la suite.
Mais ce livre-là, les psaumes, ils sont importants? Ils étaient importants pour vous?
Non. C'est l'idée du livre sacré. C'est-à-dire, vous venez au monde dans un monde, entre guillemets, qui expliquait, résumait, cadenassait, verrouillait par un seul livre. Et d'un coup, vous découvrez les autres livres. Et il y a une stratégie de contournement. Il y a une entreprise de libération du corps, d'abord, et de la réflexion qui se fait par la lecture. Et c'est important. Donc, je ne veux pas donner une image complexe de ce roman, mais c'est toute l'aventure de quelqu'un qui rencontre des livres qui lui permettent de se libérer, tout simplement. Et on se libère par rapport à quoi ? Dans mon univers, on se libère par rapport à un livre sacré qui veut tout expliquer, qui veut parler à ma place. Et d'un coup, j'écris. Et d'un coup, je lis. Et c'est un petit peu ça, Zabor. Zabor, c'est la traduction de psaume. C'est le surnom du personnage, mais en même temps, c'est le livre lui-même. C'est-à-dire, c'est le... j'ai été confronté quand j'étais petit à une difficulté majeure quand j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans. C'est que j'aimais cette langue, j'avais quelques livres, je voulais connaître les suites, je ne les avais pas.
Cette langue-là,
le français.
Le français.
Mais j'avais un énorme problème, je n'avais pas de dictionnaire. Zabor, c'est mon dictionnaire. Mmh. C'est comment j'ai acquis, construit la synonymie et l'explication de chaque mot tout seul. Donc, toute cette aventure, vous disiez tout à l'heure, ce couronnement, cet orgasme, ce désir que j'avais de lire, je l'ai raconté.
Il y a quand même une croyance folle qui se développe dans ce livre. Une croyance qui consiste à croire que l'écriture sauve les autres de la mort. C'est votre credo d'écrivain, ce n'est pas la prière qui donne l'éternité au fond, mais la littérature.
Le personnage le dit, il aime prier Dieu en le regardant dans les yeux plutôt de courber les chines. Donc écrire, c'est prier un Dieu peut-être, mais les yeux dans les yeux.
Mmh. Mais un Dieu quand même, vous osez le terme.
Un Dieu, oui, on le construit toujours, vous savez, chacun s'offre les dieux qu'il peut. Invisible, proche, palpable, aimé, détesté, divorcé, rêvé, rencontré, acheté, payé, comme vous voulez. Chacun a ses dieux, chacun a son panthéon. Et les psaumes, c'est une façon aussi de prier, mais sans soumission. Quelque part.
Alors, pourquoi se replonger aussi dans ces textes anciens ? Vous avez répondu en partie, l'idée de travailler sur un livre qui cadenasse les autres livres, au fond, un livre sacré qui recouvrirait tous les autres, qui nierait presque tous les autres. Mais il y a aussi l'histoire de la parabole, l'histoire du conte.
La fable, c'est une forme qui me fascine, parce que, contrairement à la fiction, c'est une fiction avouée, quelque part. C'est une forme qui ne ment pas. Son but n'est pas le vraisemblable, son but c'est de dire que je suis une fiction et elle en devient encore plus réelle. La fable c'est le prétexte du texte, mais c'est un prétexte honnête, sincère, et la fable a toujours existé. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette forme-là. Le personnage croit que quand il écrit, il sauve des vies. Je crois que c'est une mythologie niée, profonde, inconsciente chez tout écrivain. On n'écrit pas pour le plaisir, on écrit parce qu'il y a une nécessité. C'est pour ça que parfois on sacrifie beaucoup de choses autour de soi pour pouvoir écrire. Et je le disais souvent que lorsqu'on est dans une cellule, emprisonné, qu'on a tout perdu, y compris sa liberté et son honneur, on écrit aussi. Je disais que il suffit de réunir trois choses pour provoquer le conte, le livre et l'écriture. Un feu, la nuit, un voyageur. Mmh. Il y a une nécessité dans l'écriture qui, à mon sens, répond plus au souci de dominer et de désamorcer l'angoisse d'être qu'au souci du divertissement. Le monde est infini avant nous, pendant que nous vivons et après. Quand vous écrivez, le personnage le dit, vous sculptez une pierre inaugurale, plutôt tombale que vous pouvez déplacer. Mmh. Vous donnez au monde quelque chose qui nous a ravis, un commencement et une fin. Et ça, c'est important. Il y a de la nécessité. Zabor est né d'une émotion. Un jour, j'étais chez moi à Oran, j'avais perdu quelqu'un dans ma famille, auquel je n'étais pas lié, c'était un lointain cousin qui était très vieux. Et ce qui m'avait frappé jusqu'à la douleur, jusqu'à l'émotion vive, jusqu'à la colère, c'est que je me suis dit, il est né, il ne savait ni écrire ni lire, il avait tout un récit de sa vie, maintenant il est mort, mais il est mort absolument. Et je suis dans un rapport de dépositaire par rapport au mien, je suis parmi les premiers à avoir maîtrisé l'écriture et la lecture, et en même temps l'écriture romanesque, et je me sens en mission. Je me sens investi du devoir de faire parler mes ancêtres qui sont morts, de donner de la perpétuer leur mémoire, mais en même temps de raconter ses vies. J'ai découvert qu'il y avait une nécessité pour moi, je dirais éthique, peut-être morale, mais fondamentale d'écrire, vraiment. C'est pour sauver ces gens-là d'une mort absolue. Je ne peux pas contrer la mort absolument, mais je peux faire en sorte qu'ils puissent durer. Mais ça vient de cette formule-là, et il y a quelque chose d'autre, il y a une autre mythologie. C'est que le monde est un livre, autant le réécrire de temps en temps.
Ce qui est très intéressant, précisément dans Zabor, c'est qu'on voit votre personnage réécrire des livres entiers à partir de titres d'ouvrages qu'il a entrevus sans pouvoir les lire. Le marin rejeté par la mer, La peste, par exemple, Le Seigneur des Anneaux aussi, 20 000 lieues sous les mers, la liste est très longue. Je pouvais, dit-il, créer une bibliothèque de dos de livres vides à l'intérieur, à remplir avec le sable, une sorte de Potemkin du lecteur infatigué. Les noms d'auteurs étaient des détails, des guides de chemin, des gardiens de porte. Ce qu'ils racontaient n'était pas à eux, mais passé par eux. Trouver n'est pas voler, dit la tradition. Et j'ai commencé à écrire en volant des titres. Pour vous, aucun livre n'est indépendant des autres. La littérature ne fonctionne bien au fond que si elle est un système, que si tous les livres travaillent en réseau, se correspondent, pour prendre un terme baudelairien?
Les livres entretiennent une conversation entre eux. Tous les livres se répandent d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne se croisent pas. Les livres voyagent l'un par l'autre, etc. Tout écrivain est lecteur. Donc il transporte une bibliothèque, une librairie. Je suis fasciné par l'idée du voyage des livres. Vous savez, vous lisez, vous les mettez dans un grenier, ils sont là, et puis vous les donnez à quelqu'un, et l'autre personne les lit, etc. J'aimais, quand j'étais enfant, ces livres qui étaient annotés par des gens qui ont disparu, que je n'ai jamais croisés. Mmh. C'était les anciens colons. J'imaginais ces vies à partir de leurs annotations, etc. Mmh. Et puis, il y avait cette idée de manque de livres. Comment réparer le manque de livres? Je lisais, quand j'étais enfant, vous savez, vers la fin, les livres apparaître. Je prenais le titre et je construisais. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Disons que c'est une masturbation littéraire.
Mmh. Et c'est le commencement de l'écriture aussi, au fond, finalement. Oui. On écrit parce qu'on n'a pas... plus à lire.
On n'a plus à lire.
Ou parce qu'on voudrait lire autre
justement.
Chose.
Justement. Et on voudrait lire le livre qu'on n'a pas trouvé. Donc, cet artifice me permettait de voler des titres pour les meubler, les remplir, les imaginer par moi-même. Et c'est ce que fait Zabor.
Alors, il y a un personnage qui apparaît tout au long du livre, qui est un personnage imaginaire. Les auditeurs, les auditrices vont pouvoir peut-être le reconnaître. Je voudrais qu'on vous entende lire justement cet extrait Kamel Daoud. Voilà, donc Zabor nous livre l'un de ses secrets.
Donc, j'achetais les cahiers en recontant, les yeux fermés, le corps détendu sous la vigne noueuse de notre cour, à l'heure de la sieste, les gens rencontrés la journée précédente dans notre village, qui avait pour moi la cartographie du Nil, un par un, méticuleusement, comme des pièces de monnaie, en les rangeant dans les étagères de ma tête avec des chiffres et des lettres, et des traits et des prénoms et leurs tribus d'origine, sans me laisser distraire ni par les nuages, ni par la chaleur douce de la saison qui transformait le sang en sucre sous ma peau, ni par les rares avions qui accentuaient le silence du ciel. J'aimais cet exercice que je faisais précéder d'étirements pour agrandir à la fois mon corps et tout le firmament avec mes bras, déplier les ailes de Paul, juchées sur ses cocotiers, car, à certaines heures inspirées, je m'imaginais sous la forme du perroquet Paul, auteur d'un somptueux vacarme sous les tropiques, oiseau au destin exceptionnel et civilisateur dans une île inconnue. J'avais pêché ce nom dans un livre écrit au XVIIIe siècle qui raconte un naufrage, la rencontre avec un présumé cannibale et l'histoire de la solitude.
Merci Kamel Daoud, c'est un extrait donc de Zabor ou les psaumes, votre nouveau roman chez Actes Sud et Barzac, hein, on le redit. Évidemment, les auditrices, les auditeurs ont reconnu Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Faut-il voir dans cette présence du perroquet l'idée que l'écrivain est forcément ce que vous appelez un récrivain, quelqu'un qui réécrit, qui se réapproprie les livres des autres?
J'ai eu ce désir et ce besoin pendant longtemps de lire les livres, de les réécrire, de les imaginer, et puis de les transformer, de les mâcher, de les assimiler aussi, de les absorber, pour pouvoir me construire mon propre univers et ma propre liberté.
Alors le manque de livres à disposition va pousser le jeune Ismaël, dit Zabor, à la boulimie de lecture, les livres, les modes d'emploi, tout y passe. On a l'impression que cette période de lecture, qui sera suivie par l'entrée en écriture, vient d'une forme de frustration. En fait, on devient aussi écrivain parce qu'on est frustré finalement dans cette boulimie de lecture qu'on voudrait avoir.
Je n'aime pas le mot frustré parce qu'il y a une faiblesse, un échec. Je préfère le mot en creux. Parce qu'on est vide et on cherche quelque chose qui puisse ressembler à de la plénitude. Parce qu'on veut remplir, parce qu'on veut entourer, serrer, posséder, s'approprier quelque chose. Donc il ne s'agit pas d'une frustration qui est une sorte d'échec. Il y a une nécessité. Zabor lit énormément parce qu'il vit dans un village tellement petit qu'il lui faut un contrepoids immense. Et le contrepoids peut être apporté par deux choses, le voyage ou la lecture. Donc lui, il n'a pas les moyens de voyager, ni la capacité physique de voyager.
C'est quelqu'un... Les femmes sont aussi hors de portée.
Oui, pas uniquement les femmes, c'est son propre corps qui est hors de portée, et le corps d'autrui, parce qu'on ne découvre son corps que par le corps d'autrui, que parce qu'on embrasse. C'est parce qu'on embrasse qu'on a une langue. Et il découvre que, justement, l'ailleurs n'existe pas, il n'existerait que par les livres, mais aussi la nudité, la sexualité, l'interdit. C'est un exercice d'assouvissement, mais aussi de découverte la nudité vient avec la langue, ce qui est quand même paradoxal dans un univers qui est totalement fermé.
Alors, il y a évidemment d'autres livres qui sont en concurrence, hein, finalement, avec les livres que lit Zabor, notamment les livres religieux. Alors, Zabor est un livre sacré, hein, le mot est répété plusieurs fois dans le texte. Le livre sacré n'est pas lu dans le livre, mais enfin, il est lu, mais il est répété. Il est récité et finalement il donne au monde de Zabor, le personnage, une couleur assez peu satisfaisante. Je le cite, Zabor. Un petit monde destiné à l'abattoir et au ridicule, prétentieux dans sa façon d'expliquer le monde, dépourvu de récits capables de le sauver, sauf celui de son livre sacré, récité sans cesse pour exorciser l'angoisse. Je trouvais encore plus humiliante cette idée de paradis éternel qui vidait notre univers et le transformait en salle d'attente, en campement de nomades. Est-ce que Zabor, finalement, et au-delà de lui, l'écrivain, est en concurrence avec Dieu. Il y a cette phrase qui m'a beaucoup frappé. « Dieu écrit, dit-il, moi aussi. » Avec un orgueil terrible.
Oui, un orgueil terrible, une vanité peut-être que l'écrivain finit par payer. Il le dit au début, c'est voler du feu quand on va dérober dans l'obscurité de l'encre. Je crois que c'est une croyance profonde chez tous les écrivains, à des degrés d'aveux différents. Écrire, c'est concurrencer. C'est vraiment reprendre la parole à un Dieu amoindri. C'est amoindrir un Dieu, quelque part, que d'écrire. Qu'on le croit sciemment et consciemment, ou qu'on l'occulte et construit autour de ce désir toute une mythologie, toute une explication sociale, historique, nationaliste, etc. Mais au fond, il y a une concurrence terrible. Il écrit, j'écris, je lis aussi, et les autres prient. Donc, il y a ça. Mais c'est un enjeu fondamental pour ceux qui ont lu le Coran, par exemple. Dans le Coran, les poètes sont maltraités. Ils sont déclarés vaniteux, inutiles, errants dans les vallées creuses.
Comme Platon dans la République, d'ailleurs.
Oui, mais tout ordre n'aime pas ces rebelles-là. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils sont les concurrents quand même du métier, de la corporation. Donc autant un petit peu les disgracier dès l'origine, dès le commencement. Et donc, il y a cette idée-là, chez Zabor, de dire que un livre est écrit, et moi aussi je peux écrire un autre.
On en parlera parce qu'il y a un autre personnage, une sorte de jumeau maléfique, hein, il dit, qui est ce prédicateur, lui, qui justement récite le livre sacré et parle d'ailleurs une très très belle bouche, d'ailleurs une très très belle voix, dont Zabor est presque jaloux, parce que lui il a une voix de chèvre, de mouton.
Oui, c'est la voix du sacrifié. Il faut peut-être comprendre aussi que ce roman est un roman initiatique pour l'apprentissage de la langue, la libération par une langue et par les livres, et une confrontation avec un livre sacré qui veut tout dire et tout expliquer, une découverte du corps, mais aussi, je ne trouve pas d'autre mot, je n'aime pas celui-là, une entreprise de désalignation, c'est-à-dire comment sortir du religieux. On m'a souvent posé cette question de raconter comment s'est opérée cette aventure-là, comment construire un univers alternatif.
Par rapport à votre propre parcours,
justement,
où vous avez eu un moment très très religieux, très très mystique, hein, d'ailleurs, vous étiez passionné par ça.
Exactement, mais ce parcours pour en sortir, il est très peu raconté dans le monde arabe. Certains écrivains l'ont fait, certains dissidents, entre guillemets, l'ont fait, mais il n'est pas raconté. Sauf sous une formule qui est trop courte et qui n'assouvit pas. C'est-à-dire, je n'aime pas ceci, je dénonce cela dans la culture musulmane, etc., etc. Mais on ne dit pas l'aventure de la construction d'une vision du monde alternative. Les gens ne racontent pas comment ils ont construit leur propre salut à l'intérieur d'une offre de salut universel. Et Zabor raconte cela. Il raconte comment il a pu construire une sorte de dignité humaine, de liberté. Et ça, c'est très important. C'est une voie à écrire. Je ne l'ai pas écrite avec souci de pédagogie, parce que ce n'est pas le but de la littérature que de donner un manuel de comment sortir d'eux, mais je voulais raconter du point de vue humain la construction de cette liberté. Comment quelqu'un a pu se libérer par la langue, par les livres, par l'écriture.
C'est une mise en abîme finalement formidable d'écrire un roman qui raconte comment par la langue quelqu'un construit sa nouvelle langue en fait. C'est le rôle de l'écrivain aussi d'éclairer finalement d'une certaine manière, poétiquement mais politiquement au fond les deux se rejoignent, ces mécanismes de sortie d'une emprise, justement, qui est aussi une emprise, l'emprise d'une langue sacrée.
Oui, d'une langue sacrée, et de la manière dont cette langue sacrée a été enseignée et transmise. Il ne faut pas oublier, une langue n'est pas donnée, sauf pour les Français. Je parle de, pour vous, c'est acquis. Vous partez du point de vue que votre pays est acquis, donné pour l'éternité, que votre langue, elle est là, elle est naturelle. La langue, elle est, pour les écrivains qui ne sont pas français, est construite, elle est élaborée, elle est arrachée, elle est définie mot à mot. Donc je voulais rappeler aussi l'enjeu de cette langue, non pas de la langue française uniquement, mais de la langue en règle générale, la langue de la libération, la langue de l'écriture. Ce qui semble être donné pour certains ne l'est pas pour d'autres. Je voulais raconter avec la passion pour la langue littéraire et pour la fiction et la pratique de la fiction. Ça, c'est important à rappeler. Les mots ne sont pas définis parce qu'on les a répétés, mais parce qu'on l'a désiré, parce qu'on s'y est investi, parce qu'on a cherché. Chaque mot est une enquête en soi, est une bataille en soi, est une déformation. Le style, finalement, c'est ça. On peut acheter un dictionnaire, mais on ne peut pas acheter un style. Parce que le style, c'est le dictionnaire qu'on n'achète pas, c'est le dictionnaire qu'on construit.
On va écouter une femme, c'est Fairouz, c'est votre premier choix musical. Je vous laisse nous dire le titre de la chanson que vous avez choisie.
Alors, en arabe, cela se prononce « Khaif aqul lak illi b'albi », c'est-à-dire « J'ai peur de t'avouer ce qui est en mon cœur, dans mon cœur ».
Vous écoutez France Culture, le ton des écrivains, par Christophe Onodibio.
C'était le premier choix, votre premier choix musical, Kamel Daoud. Vous publiez Zabor ou les psaumes chez Actes Sud et Barzac. Pourquoi vous avez choisi Fairouz, qui veut dire en arabe turquoise,
c'est turquoise. Ça Fairouz, c'est une voix unique. Pour moi, c'est une voix. Quand je dis unique, je ne trouve pas d'autre mot parce qu'elle est exceptionnelle. On n'a pas entendu une voix aussi belle avant et après. Elle peut se passer des mots, ce qui est quand même l'apogée pour une chanteuse ou pour une voix, c'est de ne plus avoir besoin d'une langue, tellement la voix porte la langue elle-même. Et elle a des chansons magnifiques, un répertoire très 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 grand, et puis cette façon de révolutionner et de rénover un petit peu l'écoute et l'instrumentalité.
Alors Zabor, qui est donc la traduction du livre des psaumes, dans le Coran qui mentionne ce livre des psaumes, Zabor nous parle d'un homme qui s'appelle Ismaël, mais qui va s'appeler Zabor, un homme encore jeune qui dans un village d'Orient, d'ailleurs l'Algérie est au fond, c'est en Algérie ou c'est en Orient ou c'est ailleurs? J'ai dit Algérie tout à l'heure, mais au fond.
C'est dans la tête de chacun tout simplement.
C'est ça, on n'en sait rien.
C'est
en tout cas, on est en Orient. Est en Orient. Et cet homme est traité comme un paria, malgré ce don qu'il a et que les gens lui reconnaissent, d'éloigner la mort de ceux dont il parle dans les livres qu'il écrit sur ses cahiers. Il est d'ailleurs appelé au chevet de ceux que la mort menace, notamment au chevet de son père moribond, son père qui l'a renié, qui l'a rejeté, son père qui est dépeceur de moutons, qui est entouré de moutons, et qui a chassé Zabor de sa maison comme il a chassé sa femme. Les femmes sont importantes dans ce livre, mais elles sont en creux. Kamel Daoud, il y a trois figures, j'en ai repéré trois. La mère, qui est morte peu après avoir été répudiée, obligée de traverser le Sahara pour retourner dans le village de sa famille. La sœur du père, Ajbrahim. La mère adoptive d'Ismaël, qui est coupable de ne pas s'être mariée assez tôt et qui était mise au ban de la société avant ses 30 ans, étiquetée à jamais comme une vieille fille. Et puis il y a Djemila, une femme dont Zabor tombe amoureux et qui est décrite, elle, comme décapitée, c'est l'expression, parce que son corps de femme répudiée, elle aussi, est caché à jamais derrière les murs de sa maison. Pourquoi y a-t-il un rapport si conflictuel à la femme dans le village que vous dépeignez? Des femmes qui en viennent même à plisser les yeux de douleur quand elles sortent dehors, tant elles ne sont pas habituées à l'air libre et au soleil.
Parce que c'est vrai. Dans le village, les femmes ne sortaient pas, ou simplement voilées, ou en groupe.
Ne sortaient pas, le village de votre enfance,
oui,
le village.
Et où elles sortaient en groupe, ou à l'heure de la sieste des hommes, c'est-à-dire quand le village est plus ou moins désert, etc. La femme on lui existe quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder à l'espace public, il faut qu'elle se déchausse de son corps, qu'elle le laisse ailleurs. Donc, cette idée m'a frappé quand j'étais gamin. Vraiment, pourquoi moi je peux sortir avec mon corps et que la femme ne doit sortir que sans son corps? C'est assez frappant.
Et vous vouliez que dans Zabor, il y ait cette même image des femmes?
Pas uniquement. Zabor est fasciné par un livre majeur, c'est « Les mille et une nuits ». C'est une équation quand même terrible. Et c'est un meurtre dont nous sommes tous complices. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe dans « Les mille et une nuits » ? Une femme sauve sa vie, elle n'est pas décapitée, parce qu'elle trouve le moyen de raconter et de sursoir à la mort en mettant en sursis la fin de chaque conte, je veux dire, avant l'aube. Et ça, c'est assez frappant. Sauf que la monstruosité, c'est qu'elle sauve uniquement sa propre personne, pas les autres femmes qui ont été décapitées, et elle épouse un monstre à la fin, parce qu'il l'épouse. Zabor, c'est quelqu'un qui veut inverser cette équation. Il dit, je veux écrire une sorte de mille et une nuits capable de sauver toutes les femmes, tous les habitants du palais, ma propre vie, et désamorcer la mort pour tout le monde. Et ça, c'est important. La femme, c'est le corps occulté, c'est le corps refusé, c'est le corps honni, c'est le corps caché. C'est la moitié qui vit décapitée. Cette image m'avait frappé quand j'étais gamin, c'est de voir les femmes regarder par les fenêtres. On ne voit pas leur corps, on ne voit que leur tête. Et après, avec mes lectures, ça rejoint cette idée de Scheherazade décapitée, des femmes qui ont été décapitées, etc. C'est incroyable, cette dislocation, cette dissociation obligatoire entre cette décapitation que l'on impose aux femmes, entre la vie, leur visage et leur corps.
Vous aviez expliqué à l'occasion de la sortie de Meursault contre enquête que vous jugiez une société par le sort qu'elle réservait à ses femmes. En fait, vous pensez toujours cela?
Ah oui, mais c'est une conviction absolue, intime. Je pense que ma liberté dépend de la liberté de la femme. Je ne le dis pas parce que je suis féministe, je le dis parce qu'on est embarqué. C'est parce qu'on est dans le même lien, dans le même monde. Quand je vois des femmes se promener dehors à 10h du soir, à 11h dans une ville algérienne ou tunisienne ou ailleurs, je me sens en sécurité. Je me sens libre. Quand le corps de la femme est là, j'aime pas le mot exposé, mais imposé, c'est que moi-même, je me sens capable de maîtriser en moi-même quelque chose de plus sauvage. J'ai l'impression que c'est l'illustration de la liberté, mais aussi la preuve qu'on est passé à autre chose. On ne peut pas construire en occultant sa propre moitié. C'est un paradoxe. Non, c'est une conviction intime. Et je pense que dans le monde dit arabe, tant qu'on n'a pas résolu cette question, et je le répète toujours et encore, on n'aura rien résolu.
Oui, vous le redites. Voilà. Même si ça vous a valu parfois des soucis, vous le redites.
Les soucis, c'est le problème des autres, pas les miens. Moi, j'ai mes convictions, je les défends, je sais que j'ai raison. Et je sais que c'est honteux de ne pas le dire, parce qu'on se retrouve complice de la décapitation de milliers et de millions de femmes ailleurs.
Alors, évidemment, c'est la femme qui est l'élément déclencheur de littérature pour Zabor, mais c'est une femme de papier. C'est une femme de papier qui lui est envoyée par un ange, hein, la troisième langue de l'ange, dit-il. Et je vous cite Kamel Daoud. Il est en train, Zabor, de lire en fait des livres hein, qu'il a devant lui, des livres où le papier est important, la vétusté du papier, les moisissures du papier, les images aussi des couvertures, ce sont des livres en français. Sauf que, dans la déception légère, écrivez-vous, les images des couvertures m'accrochèrent comme des fenêtres. Je m'y penchais et sombrais, m'abandonnant à la chaleur provoquée dans mon corps par ce que j'avais vu. Je ressentis soudainement une sorte de lien de cause à effet entre mon frisson inédit et l'image de la femme au sein pointu, aiguë sous un t-shirt marin, souriant de tout son visage incliné vers le mien, si proche, à portée de l'haleine sèche du papier vieilli, heureuse car elle me fixait, mais fixait aussi quelque chose au-delà de moi. Alors ce livre, il est en français, il a un titre, hein, « La chair de l'orchidée », et Zabor découvre le français en même temps que l'infraction aux mœurs traditionnelles. Il découvre, au fond, un vieux livre érotique en français, et le français, cette langue-là et cette image vont devenir synonymes de liberté. Et je vous recite. Sur l'île de la désolation, je trouvais une bouteille échouée. L'île, c'est l'île de Robinson Crusoe, dont on parlait tout à l'heure. Et dedans, une première phrase en français, elle s'avançait vers moi, nue. Avant de maîtriser cette langue, je dus la déchiffrer dans l'extase. Elle fut celle du sexe et du voyage, ces deux versants qui étendent le corps à autrui, l'oblige à la renaissance. Alors ça, vous aviez eu l'occasion d'en parler à Marseille il y a quelques semaines. C'est votre propre rencontre que vous racontez, votre propre rencontre avec les livres, Kamel Daoud. C'est venu par ce premier livre et cette première phrase, elle s'avança vers moi, nue. Est-ce que c'est finalement de cette rencontre que vous faites l'alpha de votre vocation d'écrivain? C'est-à-dire celui qui choisit une langue, parce que cette langue, elle dit le désir.
Tout à fait. Je crois que c'est ce qui inaugurera mon apprentissage de la langue, mais aussi mon envie d'écrire et de lire. Il y a dans la lecture de le feuillage, plus je connaissais les synonymies, plus j'avais du détail sur le corps de la femme. Un sein, c'était un sein, mais connaître le mot mamelon, ça accentue, ça, on pousse vers le détail, on devient voyeur. Et qui dit voyeur dit regard, et qui dit regard dit langue pour préciser. Donc la sexualité, c'était l'inauguration de la langue pour moi. Je voulais, à partir de cette phrase, et ce que a vécu aussi Zabor, j'accentue un petit peu son aventure, c'est que pour pouvoir vivre cette nudité, il fallait connaître la langue. Donc il fallait connaître le sens des mots. Donc il fallait apprendre cette langue pour savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle s'avança vers lui, nue. Il le raconte par la suite. Il disait que j'ai déchiffré le mot « elle » et « nudité ».
Oui.
Et après, il disait, je cherchais dans les autres pages là, les occurrences de « elle » et de « nudité », comme lorsqu'on cherche quelqu'un dans une gare pour retrouver un petit peu. Et ce rapport, il est extraordinaire entre la sexualité et la langue. Il est inaugural. Vraiment inaugural. C'est à partir de là qu'il y a eu basculement. Toute langue est celle du désir. On ne peut pas apprendre si on ne désire pas. Et le désir passe justement par cette collusion assez monstrueuse entre le papier jauni et l'image de la femme. Mais en même temps, entre l'imperfection de la langue, vous savez, j'ai mis des années à comprendre qu'on ne dit pas orchidée, mais orchidée, parce qu'il n'y avait pas de règle là-dedans. Pour moi, le CH est suivi d'une voyelle. Ça se prononce chi ou chaud ou chat. Donc, l'orchidée, je pense que j'ai corrigé vers 20 ans. Jusqu'à maintenant, j'hésite quand je suis.
Et ça a changé, justement, cette perception de orchidée en orchidée? Qu'est-ce que ça a changé?
Orchidée, c'est plus sexuel, c'est plus désirable, c'est plus intime, c'est plus touffu.
Ouais.
Orchidée, c'est plus sec, c'est onguleux. Ça n'a pas le même.
Donc, finalement, c'est imparfait. La vraie prononciation du mot est imparfait par rapport à votre propre perception sensorielle du mot.
Disons que ma langue, mon français, est un diminutif très sensuel de la langue française en règle générale.
Zabor, c'est vous comme Madame Bovary, c'était l'autre?
Oui, il participe énormément, sauf que dans la fable, il a beaucoup plus de liberté. Dans la fable, on crée un début et une fin. Dans la fable, on exauce et on exorcise en même temps. Il y a une mise en scène de mon propre parcours, ça c'est vrai, je ne le nie pas. J'ai dit dans Zabor, j'ai voulu faire acte de littérature et raconter la fabuleuse aventure de la langue qui vous est donnée, mais que moi j'ai arrachée. Donc c'était ça le plus important.
Alors précisément, c'est quand même un paradoxe assez fort, que ce soit que cette langue de la liberté pour votre personnage, mais peut-être aussi pour vous d'ailleurs, Kamel Daoud, d'ailleurs je posais la question au personnage et puis à l'auteur.
Les deux réponses.
Que ça soit la langue du colon quand même, alors que vous étiez, et votre personnage, c'est la première génération après la décolonisation. Il parle de l'indépendance, des guerres de l'indépendance. Vous écrivez d'ailleurs vous-même en français. Comment vous vivez cette nature paradoxale de la langue française qui serait à la fois la langue qui met le désir en son cœur, mais qui a aussi été la langue de l'ennemi et du colon?
Oui, mais ça, c'est votre paradoxe, c'est pas le mien. C'est votre histoire. C'est à
vous
d'assumer le fait qu'il y a eu sauvagerie, barbarie, il y a eu Victor Hugo et les splendeurs de Lamartine. Ça, c'est votre problème. Moi, je prends ce qui est beau. Je suis né après l'indépendance. Cette langue, c'est la langue de la libération du désir pour moi. Je l'utilise pour conquérir le monde, pour m'expliquer le monde, pour séduire et me laisser séduire par les autres. Maintenant, rester à traîner un petit peu le poids idéologique d'une langue, on n'écrira pas. Nabokov, il a écrit en allemand, il a écrit en russe, il a écrit en américain, en anglais américain. La langue, c'est une fenêtre. Donc,
oui, mais c'est un choix qui en Algérie n'est pas anodin, le fait de...
Non, je n'aime pas cette réflexion de dire que c'est une langue que j'aime. Ceux qui n'aiment pas cette langue, l'ont à écrire en allemand ou en arabe, c'est pas un problème. Pourquoi on me pose souvent cette question, pourquoi j'ai choisi cette langue? Parce que j'en avais envie. Et le mot envie est un programme en soi. C'est une légitimité en soi. Maintenant, je comprends. La génération qui m'a précédé a vécu cette langue en mettant la langue de l'oppresseur. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu oppression. Moi, je suis né après. Je suis un enfant de l'indépendance. J'ai vécu le complexe linguistique autrement. L'arabe, qui est une très belle langue, m'a été enseigné. Elle m'a parlé de cadavre. Il m'a été enseigné par la loi, la rigueur, la punition. J'ai détesté ce rapport. Il m'a fallu des années pour guérir ce rapport à la langue arabe que je parle, que j'écris couramment et je n'ai aucun problème. Donc, je n'ai jamais parlé de l'arabe comme une langue déclassée, mais de la façon. Lorsqu'on oblige une langue à parler d'un cadavre, elle en prend les couleurs et les odeurs et le pourrissement. Et le français, pour moi, c'est une langue de digression, une langue d'imaginaire, une langue de libération, et ce n'est pas ma faute. Maintenant qu'il y ait contradiction, paradoxe par l'histoire, je ne suis pas coupable de l'histoire. Moi, je prends ce qui est bien. Et maintenant, si ça pose problème aux Français, ben, ils n'ont qu'à le résoudre, ils n'ont qu'à assumer leur passé.
Et c'était évident que ce choix, justement, pour la littérature de la langue française?
J'ai lu en français, j'ai voyagé en français, j'ai eu mes premiers orgasmes en français, j'ai détaillé...
À travers la littérature.
Exactement,
oui.
Détaillé en français, et j'ai vécu cette langue comme étant une langue intime. Un paradoxe, par exemple, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne parlais pas français. Je l'écrivais, mais je ne le pratiquais pas. La première fois que j'ai rencontré un Français vivant, c'était à l'âge de 20 ans. Les autres, c'était des écrivains morts ou le cimetière à côté du village. Tous les Français étaient morts. Et après, quand je suis arrivé à la fac, les femmes parlaient en français, les jeunes filles parlaient en français, et j'avais ce malheur, je le disais, je ne pouvais pas séduire, je parlais comme un livre. C'est-à-dire, j'avais un langage élaboré, alors que les autres étaient beaucoup plus cool, beaucoup plus in.
Un langage un peu, oui, un peu ancien, en fait.
Un peu ancien, ouais. Ils avaient l'air faux, alors que c'était pas vrai. J'étais vrai. Mm. C'était ma langue. C'était la langue telle que je l'ai apprise. Je ne pouvais pas parler autrement. Donc, c'est un rapport très, très intime à cette langue. C'est quelque chose qui fait partie de moi-même. On me l'a pas donné aussi. Ni les Français, ni le colon, ni l'école ne me l'ont donné. Elle est à moi. Je l'ai trouvée.
Dans les livres, en fait,
oui.
Dans ces livres-là.
Trouver n'est pas voler.
Ils étaient où, ces livres, d'ailleurs, pour vous, Kamel Daoud? Alors, c'était comme Zabor, un peu...
Non, je crois que ça appartenait, je crois, à mon père, parce que mon père ne vivait pas avec nous, avec moi. Il était gendarme, donc il vivait un peu loin, 200, 300 kilomètres, avec ma mère, etc. Moi, je vivais avec mes grands-parents. Il y avait, je pense, une quinzaine de livres qui traînaient dans la même maison. C'est une étagère qui existe jusqu'à maintenant dans la maison de ma mère et qu'on appelait pompeusement la bibliothèque. C'était une étagère, il y avait 15 romans et à un moment je tournais dans la maison, je n'avais rien à faire, j'ai pris le premier, c'était La chair de l'orchidée et il y avait une très belle photo, très sexy d'une femme et je me disais, elle est sur la couverture donc elle doit être dedans. Donc c'est à partir de là que je commençais un petit peu à déchiffrer, mais c'est des livres qui appartenaient à mon père, qui appartenaient peut-être à des maisons de colons qui ont laissé leurs livres quelque part, etc.
C'est drôle parce que ce que vous dites là, on est vraiment au centre de la littérature. Je me souviens d'une phrase d'Umberto Eco qui disait qu'il avait été beaucoup plus triste quand Anna Karenine était morte que quand une vieille tante, peu importe, on va pas lui jeter la pierre, c'était ça de son droit d'ailleurs d'être plus triste à cause d'Anna Karenine, mais ce pouvoir qu'a la littérature et que vous mettez d'ailleurs en évidence dans votre nouveau roman Kamel Daoud, c'est-à-dire que dès qu'on nomme, dès qu'on décrit par les mots, on fait advenir à l'existence au fond. Vous disiez cette femme nue, elle était sur la couverture donc elle était forcément dedans. Et oui. Effectivement, et les personnages ils sont dedans et ils vivent.
C'est une loi anthropologique, c'est une loi littéraire, c'est une loi du langage. Dire, c'est non seulement faire exister mais préserver de l'oubli. C'est tracer un mot, c'est sauver une essence. Et c'est cette loi que Zabor appelle la loi de la nécessité. C'est-à-dire, tant que j'écris, les gens meurent moins lentement, les choses se désagrègent plus lentement, elles se perpétuent, elles s'éternisent, etc. La langue est essentielle pour préserver. Et d'ailleurs, c'est sa croyance profonde. Tant que j'écris, je sauve des vies. Tant que je décris, je perpétue. Je fais reculer la mort, mais si je me tais. Vous imaginez
cette... Mais la mort pour vous, y compris pour vous.
Oui. Y compris pour moi.
Non, mais je veux dire, ce credo de Zabor, c'est un credo qui est aussi celui de l'écrivain, Kamel Daoud, où on est dans une part de fantasme de
non,
la part de
ce personnage. C'est une croyance intime aussi de chaque écrivain. J'étais à Yale il y a 2 ans, on m'a offert à feuilleter, à lire pendant 2 heures ou 3 le manuscrit de Le mythe de Sisyphe, et j'étais frappé. Parce que le manuscrit est quand même un corpus extraordinairement paradoxal. J'ose. Parce qu'il est à la fois la preuve que quelque chose s'est perpétué au-delà de la disparition de son auteur, mais en même temps la preuve de sa mort. Un manuscrit prouve que finalement, écrire n'a pas sauvé son auteur de la mort, mais en même temps prouve qu'il n'est pas mort totalement et absolument. Cette idée de manuscrit, elle est quand même extraordinaire. Le pire dessin dans ce cas-là, et la grande tragédie, c'est celle du copiste. C'est celui qui transmet, perpétue, mais sans jamais exister. Je trouve cette idée assez fascinante d'un point de vue métaphysique et philosophique. Donc, nommer, c'est humaniser, c'est perpétuer, c'est éterniser, c'est décrire, c'est sauver.
C'est faire acte de création. On nomme et on fait advenir.
Oui,
le verbe est chair.
Oui, mais en même temps, on nomme et on sauve. Ouais. C'est un acte de salut, pas uniquement de création. Parce que la création était déjà faite. Mais comment sauver cette création? L'écrivain le fait.
On va écouter votre deuxième choix musical, Kamel Daoud. Vous avez choisi Loula du groupe Tina Ruwen. C'est un groupe Touareg, en fait. Pourquoi ce choix musical?
J'ai découvert, disons, intensément la musique Touareg depuis peut-être 5 ans maintenant, ou 6 ans, et c'est quelque chose de fascinant. Je veux dire, une musique du vent, une musique du vide, une musique du désert aussi, du Sahara, mais aussi une musique qui est en même temps un territoire. Parce que les Touaregs n'ont pas de pays, n'ont pas de territoire. Ils en souffrent, partagés entre le Mali, l'Algérie, le Niger, le Tchad, sur les parcours d'eau. On veut les sédentariser de force. Et cette musique est justement le corps du territoire. Mmh. Et j'aime cette idée-là.
Et l'écrivain serait un Touareg, au fond, dans cette où l'écrivain a un territoire ?
Non, je pense que le Sahara pèse énormément sur nos imaginaires tous. Il faut faire l'expérience du Sahara quand on y va pour rencontrer les vides. Et finalement, c'est la chose, c'est l'endroit le plus plein du monde. Mmh. Et c'est paradoxal. Quand on n'a pas fait l'expérience du désert, on ne le sait pas.
Surtout le désert algérien. Magnifique.
Il est magnifique parce qu'il n'est pas
policé.
Oui, c'est un désert sauvage. C'est un désert ambigu qui peut tuer aussi. Donc on est vraiment dans le désert premier. ما رغد باجو والخالق ناصمي ولا ترسات النيلة ما رغد باجو والخالق
Lula de Tina Ruwen, c'est le deuxième choix musical de Kamel Daoud qui publie Zabor ou les psaumes, son deuxième roman, chez Actes Sud. Zabor est un jeune paria exilé par son père qui l'a renié aux marges du village, mais ce garçon a un don dont il s'est persuadé et qu'on lui reconnaît s'il écrit sur quelqu'un, car Zabor écrit, il prolonge la vie de cet être humain, il repousse sa mort. Alors on en parlait, Zabor Kamel Daoud, c'est le nom arabe des psaumes, en fait, du livre des psaumes de David, qui d'ailleurs s'appelait Daoud, hein, David c'est Daoud.
Exactement.
Voilà. Et ce livre, Zabor, se met à sa façon, dans l'histoire, en concurrence avec un autre livre, un livre plus ancien. C'est au fond, comme finalement dans Meursault contre enquête, vous aviez réécrit ou revisité L'étranger de Camus. Ici, il s'agit un petit peu de réécrire l'histoire du sacrifice d'Isaac par son père Abraham, puisque Zabor semble être la synthèse des deux fils d'Abraham. Ismaël, d'ailleurs, c'est le vrai nom de votre personnage, qu'il a eu avec la servante Agar lorsque Sarah était stérile. Et puis Isaac, fils de la vieille Sarah. Simplement, on a l'impression que ce qui se passait dans la parabole, c'est-à-dire où le fils promis à la mort finalement n'était pas tué par son père, eh bien on a l'impression que dans ce livre, l'infanticide, il est consommé et au fond c'est le mouton qui est le symbole de la docilité, de la soumission, qui lui va être privilégié.
Tout à fait. Cette idée, je crois qu'elle est fascinante. Le geste d'Abraham qui veut tuer son fils, je trouve quand même que c'est une blessure inaugurale, inadmissible, fascinante dans le monothéisme en règle générale. Bon, dans la version coranique, il s'agit d'Ismaël. Dans l'autre version biblique, il s'agit d'Isaac. Mais on est toujours dans l'infanticide. Et je pense que c'est un grand drame maintenant. Quelque part politiquement, pour surinterpréter, je n'aime pas induire la lecture. On est dans cette situation-là.
En Algérie, vous dites, oui.
On a une génération, celle qui a dit qu'il a libéré le pays, mais qui est dans l'infanticide absolu. Tuer le fils pour sauver le mouton, c'est-à-dire la soumission à la docilité. Mmh. Cet infanticide est perpétuel jusqu'à maintenant. Il m'a toujours fasciné. Comment un père, on arrive à cette situation-là, traîner son fils vers la montagne pour l'égorger. Mmh. Quand même, il faut réfléchir cette fable inaugurale.
Alors précisément, Kamel Daoud, on comprend en vous écoutant que on peut lire aussi, on y pense constamment, même si dans ce livre on ne sait pas où on sait qu'on est en Afrique du Nord, car le Sahara est là, on est en Orient, mais on ne sait pas s'il s'agit vraiment de l'Algérie. Or, on pense évidemment à la situation d'Algérie quand on vous lit. D'ailleurs, Zabor a une sorte de jumeau monstrueux et égaré, c'est comme ça qu'il le décrit, une version maléfique du don qu'il a, qui s'appelle Hamza, et qui est lui un religieux fanatique, partisan d'une lecture littérale du Coran. Il y a encore aujourd'hui, ce que semble dire ce couple, hein, Zabor et Hamza, il y a encore aujourd'hui une concurrence entre poésie, disons au sens large, hein, fiction, et religion dans l'Algérie contemporaine.
Oui, entre le vers et le verset. La concurrence, elle est ancienne, elle est toujours là. Qui prend la parole et qui ne veut plus la céder pour la donner à autrui? Un livre sacré, c'est un livre qui prend la parole, qui ne veut plus la redonner à l'humain. Et la littérature, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui écrit, qui prend la parole, qui ne veut plus la redonner à un dieu. On est dans cette concurrence-là. Cet antagonisme, cette concurrence, elle n'est pas uniquement algérienne. Elle n'est pas uniquement dans le monde dit arabe. Elle est partout maintenant. Quand on est confronté à un intégrisme, on est confronté à un texte sacré. Le livre, il est descendu du ciel, il est rouge, il peut être vert, il peut être celui d'un royaume, etc. Il y a toujours cette confrontation entre parole libre et parole d'oppression. Une parole d'exigence et une parole de vérité. Donc, c'est un enjeu qui se perpétue, qui se réactualise d'une façon ou d'une autre, qui se décline maintenant sous la forme d'une concurrence entre le vers et le verset, mais ça peut être autre chose dans d'autres territoires, ici en France ou ailleurs. Ce n'est pas un mal algérien, c'est un mal universel, et ce n'est pas un exercice de résistance algérien, c'est un exercice de résistance universelle.
Alors, je l'ai dit hein, dans l'introduction, vous êtes un cas rare et précieux, quelqu'un qui est à la fois un chroniqueur, quelqu'un qui écrit dans les journaux sur le temps présent, même si ça autorise évidemment des voyages vers le passé, et peut-être aussi un peu de prospective, et puis de romancier, en fait. Il y a ces deux chemins que vous empruntez. Le titre Zabor, ça venait d'une chronique. Hein, d'abord, il y a une chronique avant ce roman, Kamel Daoud.
Comme toujours, En général, j'écris une chronique. Après, je sens que l'élan est porteur, donc je continue. J'ai continué pour Zabor.
Je voudrais savoir quelle fonction, finalement, dans le contexte d'une lutte, je pense à Mes Indépendances, hein, au titre de votre recueil de chroniques, quelle fonction vous assignez à chacun de ces modes d'expression, la chronique et le roman, qui sont tous les deux basés sur les mots, mais qui n'ont peut-être pas le même but.
Non, qui n'ont pas le même élan, qui n'ont pas la même altitude et qui n'ont pas le même sujet. La chronique, je traite de l'actualité. La littérature, je traite de ce qui est humain, de ce qui dépasse l'actualité. Je ne traite pas de l'information, mais de ce qui est, on peut appeler maintenant essence ou de notre rapport au réel. Il y a aussi un choix de rythme et d'élan. J'aime bien cette formule que je répète toujours quand on me dit quelle est la différence entre le roman et la chronique. Je leur dis, c'est la différence entre un match et un pénalty. Donc la chronique, c'est un pénalty, vous ciblez et vous tirez. Le match, ça se construit avec des personnages.
Et je vous cite, hein, la chronique est aussi un vaste roman, ça c'était dans Mes Indépendances. Elle est la même, toujours réécrite, sentie, vécue d'abord comme une mélodie avant d'aboutir au sens. Si la chronique est aussi un vaste roman qui permet de convoquer les grands livres, comme vous disiez, les belles images encore debout dans le vent, les débuts de romans, les grandes philosophies qui résonnent, au fond, on a l'impression que c'est au fond le même combat.
C'est pas le combat, c'est la même inspiration, disons, c'est la même... Vous savez, dans la chronique, là, je slalome, j'ai beaucoup plus de liberté. Je peux écrire sur une information, un éditorial sur des élections, mais aussi je peux parler de l'infanticide comme politique chez nous. C'est-à-dire quand vous avez un président qui ne veut pas mourir, qui refuse la mort, donc qui refuse la transition, qui refuse l'enfant, la filiation, etc.
Qui
donc,
dévore ses enfants, presque.
Qui dévore ses enfants,
Chronos.
Exactement. Exactement ça. Donc on est un petit peu à la limite des deux genres, mais on les traite différemment. C'est une conversation beaucoup plus longue dans le roman, c'est juste un petit compagnonnage ou un café dans la chronique. Ce sont des attitudes différentes, etc. Mais c'est vrai que fondamentalement, je ne fais pas une différence dans le genre, mais dans le rythme.
Je vous posais la question parce que vos prises de position, par exemple, sur les printemps arabes, sur l'Arabie Saoudite, sur la burqa, sur ce qui s'est passé à Cologne, par exemple, sur le refoulé national algérien, à la fois vous ont imposé comme une figure centrale du paysage intellectuel, mais vous semble parfois vous avoir mis dans une position intenable. Par exemple, quand vous déclarez « Je persiste à le croire, si on ne tranche pas dans le monde dit arabe, la question de Dieu, on ne va pas avancer », ça vous vaut des menaces de la part d'un activiste salafiste. Et quand vous dénoncez, à propos des agressions sexuelles à Cologne, un rapport malade à la femme, au corps et au désir, là, vous êtes accusé par un collectif d'anthropologues et de sociologues occidentaux d'alimenter, car c'est maintenant l'insulte suprême, les fantasmes islamophobes d'une partie du public européen sous le prétexte de refuser tout angélisme. Alors, je vous pose la question, dans les deux cas, comment continuer à croire finalement au bien fondé des mots quand ils mettent autant de feu, en fait, autour d'eux, quand visiblement ils ne sont pas compris?
Non. Il y a une partie qui n'a pas compris, il y a une partie qui ne veut pas comprendre et qui, et c'est vraiment l'expression d'une attitude de mort, une attitude de refus de l'autre, de l'altérité, de la réflexion. Maintenant, le monde n'est pas peuplé uniquement par des gens qui appellent à la mort et d'autres qui refusent de voir les choses telles qu'elles sont, le réel tel qu'il est. Je me sens pas lié intimement à l'appréciation des gens, franchement. Que ça soit une appréciation d'adoration ou d'éloge que de critique. Mon enjeu, l'enjeu le plus intime pour moi, c'est le salut. C'est comment me sauver, comment vaincre la mort. Fondamentalement. Mmh. Comment être conforme, être de bonne foi. Maintenant que les gens réagissent de cette manière ou d'une autre, ça prouve une chose, qu'une partie du monde est malade et que je vise juste.
Oui, mais quand les mots, et là je vous cite encore, quand les mots ont deux visages, trois sens, quatre synonymes et cinq boules de fer au pied, vous écriviez ça dans Mes Indépendances. Comment on fait pour se débrouiller avec les mots qui sont quand même votre carburant?
Deux choix, soit s'asseoir, soit continuer à tirer le pot mort. Donc moi je préfère continuer.
Et grâce à la métaphore, par exemple, il y a de très très belles pages sur la métaphore dans Zabor, hein, la métaphore qui permet de dépasser le sens littéral des mots pour les emmener autre part.
Le style, c'est notre plus-value. Il ne faut pas l'oublier. Le style, c'est ce que nous ajoutons à chaque siècle, chaque décennie, avec chaque livre, etc. Donc, c'est ce qui nous différencie. Le style, on l'ajoute à la pierre, sinon c'est de la pierre. Quand on lui ajoute du style, ça devient de l'architecture. Donc, écrire, c'est important. Continuer, c'est important. Trouver les mots justes, c'est important. Et qu'il y ait des réactions, qu'il y ait des séismes, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des crises, qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des appels à la mort, ça fait partie aussi du jeu. Le plus important, c'est de continuer, c'est d'écrire. C'est quelque chose de nécessaire.
On va terminer par ces quelques mots qui sont à l'orée de votre livre Zabor ou les psaumes, Kamel Daoud. À mon père Amidou, qui me légua son alphabet, mort si dignement qu'il vainquit sa mort.
Mon père était mon seul lecteur depuis toujours. C'est le seul qui maîtrisait le français, qui lisait un petit peu mes chroniques, qui lisait un peu mes livres, mais sans jamais les commenter. Je l'ai perdu à un moment assez particulier, c'est-à-dire au moment du triomphe, enfin de l'apogée de médiatique ici en France avec Meursault. C'était quand même un lien qui était que je vis jusqu'à maintenant, cette idée que le succès est lié à la perte de quelqu'un, comme s'il y avait un équilibre quelque part à préserver. C'est ma propre mythologie. C'est donc quelqu'un qui maîtrisait le français, c'est quelqu'un qui m'a appris l'alphabet. C'est le seul geste, je me rappelle, qu'il a fait pour m'aider. C'était mon premier alphabet en français. Il m'a regardé, il a trouvé que j'écrivais un peu mal. Il m'a aidé à tracer les premières lettres. Mais quand je dis alphabet, c'est aussi sa vision du monde, donc qui m'a transmise, qu'on le veuille ou pas, par le lien du père au fils. Donc je voulais lui dédier ce roman parce que c'est le roman aussi du lien à la paternité.
Et on apprend dans Zabor qu'en arabe, le mot imaginaire est le même mot que le mot ombre. Lointain héritage des caravanes et des déserts, dites-vous.
Khayal, c'est ombre, et Khayal, c'est imaginaire. C'est quelque chose d'inconsistant, qui est le contraire de la vérité, qui est le contraire de la réalité. C'est un contraire futile, accessoire, qui n'a pas d'importance.
Mais l'ombre, c'est ce qui fait peur aussi. Donc l'imaginaire ferait peur, en fait,
dans
la langue
arabe. Non, c'est pas ce qui fait peur, c'est ce qui est insignifiant, ce qui n'a aucune importance, ce qui n'est pas vrai. Et la fiction, autant que l'imaginaire, sont déclassés. Vous savez, quand vous avez une construction philosophique qui est bâtie sur l'au-delà, donc il vaut mieux écraser les imaginaires. L'imaginaire, le fantasme, est accaparé par l'au-delà.
Oui, mais l'ombre, c'est riche, fantasmatiquement aussi.
Non, au désert,
dans
c'est pas
désert,
riche.
Non,
c'est pas riche. Au contraire, ça veut dire que vous êtes en plein soleil et qu'il faut se cacher.
Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, finalement, redonner du solaire à cet imaginaire qui était marqué
dignité,
par l'ombre?
Dignité à la fiction. Tous les totalitarismes n'aiment pas la fiction, en règle générale. Ils la traitent comme étant quelque chose d'accessoire, parce que c'est une façon de déclasser la culture, en règle générale. Et j'ai aimé rappeler cette évidence-là, cette traduction qui est quand même assez frappante. Le mot imaginaire et le mot ombre ont la même légèreté, la même insignifiance, la même inconsistance. La fiction était le contraire de la vérité. Al-Khayal, et Al-Khayal.
Merci beaucoup, Kamel Daoud.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre nouveau roman, deuxième roman après Morceaux contre-enquête, Zabor ou les psaumes. C'est publié chez Actes Sud et chez Barzac. C'est très important, votre éditeur algérien.
Tout à fait.
Au revoir, Kamel Daoud.
Au revoir.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité d'Héloïse Alluin, Anne-Laure Chanel et Jérémy Thuil. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission avec Kamel Daoud.